Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de ce numéro de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Alors que la reprise des concerts est désormais imminente, comme vous le savez, un peu de patience cependant, il va falloir attendre encore une dizaine de jours pour ça, du moins à Toulouse et dans notre région. Pour préparer ce retour dans les salles, je vais vous proposer aujourd'hui la rediffusion d'une des émissions de notre cycle Jean-Sébastien Bach, celui que nous avions consacré à l'automne dernier à ce géant de la musique savante européenne. J'avais la chance d'y avoir pour invité Michel Brun, le fondateur et directeur artistique de l'ensemble baroque de Toulouse et du festival Passe ton Bac d'abord, grand spécialiste s'il en est de Bach à Toulouse. Nous avions dédié les deux premières émissions aux passions selon Saint-Jean et selon Saint-Mathieu pour la première, puis à l'œuvre pour clavier seul en ce qui concerne la deuxième. La troisième était consacrée à un gros morceau de l'œuvre de Bach, les cantates. Il y en a plus de 200 répertoriés au catalogue et la tâche paraissait bien démesurée pour en donner un aperçu représentatif en moins d'une heure d'émission. Nous avions toutefois relevé le défi avec Michel Brun, retour arrière de 3 siècles au royaume des cantates de Jean-Sébastien Bach.
Mélomanie. Retour arrière.
Alors Michel Brun, Bach a donc plus de 200 cantates à son actif, il adorait manifestement ce genre, et je vais vous demander de nous rappeler la forme et les principes de la cantate, genre qui n'est pas né en Allemagne d'ailleurs, mais plutôt en Italie.
Voilà, absolument. Comme beaucoup d'ailleurs de choses qui concernent la musique, hein, l'Italie, on peut le dire, vraiment est le berceau de la musique. On pourrait en prendre un seul exemple, qui est que tous les termes qu'on utilise à l'heure actuelle, et une bonne partie de ceux qu'on utilisait d'ailleurs, et y compris en Allemagne à l'époque, sont des termes d'origine italienne. Voilà. On disait par exemple forte pour fort, piano pour doucement, ou bien, ce qui a donné piano forte, l'instrument, ou bien moderato, adagio, allegro, etc. Autant de termes italiens qui ont, comment dirais-je, essaimé. Donc je pense que ça prouve bien que l'Italie est le berceau de la musique. Alors, cantate vient d'un mot italien, donc cantare, et s'oppose à sonate, sonare, tout simplement pour dire que dans la première, il y a la voix qui intervient, donc on fait chanter, et dans la deuxième, sonate, sonare, on fait sonner les instruments, c'est-à-dire c'est de la musique sans voix. Voilà d'où vient le mot cantate, et ensuite, évidemment, avec les multiples développements qu'il a connus.
Alors, il y a des textes, évidemment, puisqu'on chante, il y a un texte, et le texte de la cantate peut être aussi bien religieux, donc des extraits des évangiles ou des passages de la Bible, ou profane également.
Voilà, absolument. Les deux sont en vogue, on va dire, à l'époque de Bach, à l'époque baroque. Hein. C'est un genre qui est né, donc, effectivement, au début du baroque, enfin, qui s'est développé au début du baroque, et qui est devenu triomphant à cette période à laquelle Bach a vécu, et puis ensuite, qui est relativement tombé en désuétude à partir de la fin du baroque.
Alors les cantates, c'est souvent des alternances de récitatifs, d'aria et de chœurs, mais ça peut être aussi que des chœurs ou que du choral.
Voilà. D'ailleurs, le mot cantate, il faut bien savoir une chose, c'est que Bach ne l'a quasiment pas utilisé pour ses œuvres. Hein. Donc déjà, c'est nous qui, pour des raisons pratiques, et c'est normal de le faire, on a évidemment toujours intérêt pour rendre la pénétration d'un domaine aussi vaste que celui-là, disons, à borner un petit peu les choses. Voilà. Mais lui parlait plutôt parfois de concerto, il parlait parfois de dialogue en musique. Hein, dialogue en musique, c'est étonnant, mais c'est la même chose que concerto, puisque le mot concerto veut dire concerter, donc discuter, et voilà. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de genres différents qui sont regroupés sous un même terme. Et Bach, on le verra tout au fil de cette émission, a illustré tous ces genres différents, enfin certains de ces genres différents qui peuvent paraître très opposés. Voilà, mais il faut savoir que, évidemment, Bach était quelqu'un qui était très très perméable aux influences musicales, pas du tout qu'il n'ait pas de conviction musicale personnelle, mais simplement il trouvait de la richesse partout, et donc on va voir qu'il s'est inspiré de beaucoup de genres différents pour composer ses cantates. Il faut toujours se rappeler d'une chose, c'est qu'à l'époque de Bach, un compositeur n'était pas un créateur retiré sur un sommet escarpé et isolé et contemplant le monde à ses pieds, comme un peu l'imagerie romantique va le développer dans les décennies qui vont suivre, mais c'était un employé. Pour vivre, un compositeur à l'époque, je pense que c'était la même chose pour un peintre d'ailleurs, était un employé. Et en l'occurrence, Bach a tout au long de sa vie été employé essentiellement de villes qui en Allemagne étaient évidemment très liées à la pratique religieuse, hein, puisqu'il y avait souvent les édiles étaient en même temps des édiles municipaux et des édiles religieux, on pourrait dire, c'était le cas par exemple à Leipzig, et donc employé de telle ville, eh bien le compositeur, le cantor, puisque c'était le titre qu'a obtenu Bach à la fin de sa vie, était, voilà, c'était son boulot, il devait faire composer des cantates, ce qui explique ce côté un peu pléthorique des cantates à l'époque.
Ah oui, pléthorique, et c'est sans doute pour ça, de par leur nombre et leur variété, que les cantates restent la partie la moins connue de l'œuvre de Bach, à quelques exceptions près toutefois.
Voilà, absolument. Pendant très longtemps, lorsque Bach a été, on va dire, redécouvert, puis est devenu petit à petit, au fil du XXe siècle, on pourrait dire, c'est très curieux, hein, la destinée de Bach après sa mort, la destinée de Bach et surtout de sa musique, bien sûr, après sa mort, puisque Bach était quasi oublié, qu'il a fallu attendre, donc, on l'a vu dans la première émission, un siècle environ pour que des œuvres aussi géniales que les Passions soient redécouvertes, mais ça n'a pas rendu l'ensemble de sa musique vraiment populaire. Bon, on en avait parlé, la première fois qu'on a entendu, par exemple, une Passion en France, c'est à la fin du XIXe siècle, c'est absolument incroyable, voilà. Et on a vu, au cours du XXe siècle, donc, émerger sa musique instrumentale, petit à petit. Alors, il y a évidemment quelqu'un, là, c'était l'occasion d'en parler la semaine dernière, à propos des variations Goldberg par Glenn Gould. Il y a quelqu'un, donc Glenn Gould, qui a fait beaucoup pour ça. Et puis aussi, des musiciens comme Harnoncourt et Leonhardt, avec la redécouverte des instruments anciens. Et petit à petit, la musique de Bach, comme un iceberg qui serait tombé sous la mer, si c'était possible, a réémergé. Et puis, il y avait cette espèce de continent que représentent ces plus de 200 cantates. Il faut bien reconnaître que c'est un tout petit peu effrayant. Par quel bout les aborder. Et puis une autre chose qui est très symptomatique, c'est que ce ne sont pas du tout des œuvres de concert, pas du tout. Et donc, elles passent relativement mal en concert, voilà, parce que Bach ne les a pas du tout évidemment conçues pour ça. Et donc, c'est difficile pour un interprète de les programmer dans un concert. Donc ça faisait que pour les découvrir, ben, c'était quasiment possible qu'au disque, quoi. Elles restent même à l'heure actuelle assez rares au concert, il faut bien le dire. Donc, un peu méconnues, mais enfin, pas toutes.
Alors, puisqu'on en parle, parmi les cantates de Bach, très peu sont connues du grand public, comme je le rappelais tout à l'heure, et même très peu connues des mélomanes, hein, il faut le dire.
Tout à fait.
À quelques exceptions près, à quelques airs, à quelques chœurs près, donc, il y en a qui sont quand même de véritables tubes, et notamment celui-ci. Voici un extrait de la cantate BWV 147.
Thank you.
Jesu bleibet meine Freude, Jésus que ma joie demeure, cœur final de la cantate BWV 147, interprétée ici par l'ensemble de la Jean-Sébastien Bach Foundation. Là, Michel, c'est le tube des tubes, et en ce qui concerne ce Bach, c'est peut-être sa composition la plus connue du grand public.
Voilà.
Celle que tout le monde peut fredonner.
Absolument. Alors, c'est très étonnant parce que on a commencé cette émission en disant donc que les cantates étaient le domaine, disons, le groupe d'œuvres le moins connu de Jean-Sébastien Bach, et là, on vient de prouver le contraire, probablement, voilà, le tube absolu de Bach et même peut-être de toute la musique. Voilà, souvenir personnel qui prouve ça lors de notre cycle Cantate sans filet, d'avoir donné cette cantate en clôture d'un festival Passe ton Bach d'abord à la cathédrale Saint-Étienne. Il y avait environ 1300 personnes dans la cathédrale qui ont tous repris en chœur, soit en chantant les paroles, soit en chantant la la la, que tout simplement quand on ne chante pas l'allemand, quand on ne parle pas l'allemand. Et il y a un monsieur qui est venu me voir à la fin, qui était visiblement athée et qui m'a dit cette chose, je trouve extraordinaire, qui m'a dit mais c'est incroyable, c'est une véritable commune. Et puis il s'est retenu comme s'il allait dire un gros mot, il voulait dire communion.
Communion, oui.
Voilà. Mais c'est merveilleux, c'est exactement ça. On peut vraiment communier dans cette musique au sens le plus large du terme, pas nécessairement religieux.
Cantate BWV 147 composée en 1723 pour célébrer la visitation de la Vierge Marie et qui reste par-delà les siècles dans le cœur du public. Alors, il y a très nombreuses versions de ce chœur, mais vous avez choisi celui de cet ensemble Jean-Sébastien Bach Foundation. Pourquoi ? Parce que ça doit être chanté comme ça selon vous ? Parce qu'il y a quelque chose de particulier dans l'interprétation qui fait que ça s'adresse vraiment à tous. C'est pas seulement tourné vers l'intérieur, l'intériorité.
Voilà, tout à fait. Alors évidemment, quand on réfléchit ensemble à cette émission, je cherche des versions intéressantes, pas nécessairement toujours les versions qui me plaisent le plus, mais celles qui me paraissent intéressantes à faire découvrir. Alors là, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'option, très franchement, prime sautière, le côté très léger. Alors l'articulation que fait l'orchestre est marquée par Bach, ce qui est très rare parce qu'il notait très peu de choses sur ses partitions. On comprend très bien pourquoi. Pour deux raisons, il n'avait pas le temps. Il était tout le temps en train de composer une nouvelle œuvre puisqu'il était donc chargé de ça. L'une chassait l'autre, absolument. Et puis deuxièmement, une chose qu'on ignore trop souvent, c'est qu'il y a une seule cantate de Bach qui a été éditée de son vivant. Et donc, cette musique était destinée à servir une fois ou deux fois. Il en reprenait des cantates. Hein. Parfois, il les recyclait plus tard dans sa vie parce qu'il avait tellement de boulot qu'il n'avait pas le temps de composer une nouvelle cantate. Mais il n'imaginait pas la postérité. Et donc, comme c'est lui qui les dirigeait, les faisait travailler, mais il pouvait donner les indications en direct aux musiciens. Donc, pas la peine de perdre du temps à les noter sur les partitions. Mais pour une fois, il a noté, ça veut dire qu'il y accordait certainement de l'importance. Et donc, cette interprétation, il souligne particulièrement ça par la manière de le rendre très sautillant, on va dire, par le tempo rapide. Alors après, on peut se poser la question, est-ce effectivement, comme tu l'as dit, une joie intérieure ou une joie plus...
Tournée vers ceux qui écoutent.
Tournée vers ceux qui écoutent, voilà. Et puis il y a une autre chose qui m'intéresse, c'est qu'il y a une curiosité sur ce choral final de la cantate 147, c'est qu'en réalité, le grand public connaît ce qui n'est que l'accompagnement, c'est-à-dire la petite formule d'orchestre. Mais évidemment que le vrai centre de cette page, c'est le choral qui est chanté. Et à cette vitesse-là, on entend beaucoup mieux les phrases du choral, je trouve, que quand il est fait de manière un peu trop processionnelle, disons. Et là, à ce moment-là, les phrases sont interminables et on ne les perçoit pas complètement. Là, je trouve qu'on a vraiment envie de chanter avec eux.
Toute la richesse de cette œuvre,
voilà,
dans cette interprétation. Alors, Bach, donc plus de 200 cantates, je le rappelais. Je crois que c'est 213, très exactement, répertoriés au catalogue.
Voilà.
Sachant qu'il y en a sans doute une centaine qui ont été perdues.
Voilà, c'est ça. On estime qu'il y en a une centaine. On ne sait pas très bien, pour tout dire. On estime qu'il y en a une centaine qui a été perdue, en particulier après sa mort. Puisque ses partitions, ce qu'il en restait, ont été dispersées entre ses différents héritiers, donc ses fils, et que l'un d'entre eux, en particulier, on peut l'accuser, hein, je crois que maintenant c'est une chose qui est à peu près prouvée sur le plan historique, Wilhelm Friedman, compositeur génial ô combien, mais aussi ô combien compliqué, très probablement assez dépressif et
tourmenté.
Qui a connu toute sa vie durant des soucis d'argent, a dispersé, peut-être vendu, peut-être perdu tout simplement par négligence, une bonne partie des cantates qui lui ont été octroyé au moment de la succession de son père.
Ce galopin de Wilhelm Friedman, c'était l'aîné en plus.
Hein. Oui, tout à fait.
C'était l'aîné.
Et un des plus géniaux, il n'y a aucun doute.
Alors donc, Bach aurait composé plus de 300 cantates, certainement, mais il y en a qui ont fait, si je puis dire, beaucoup mieux en termes de quantité, qui sont les autres grands producteurs de cantates de l'époque de Bach.
Alors, dans son entourage historique, hein, on peut parler des compositeurs de son temps et d'un peu avant, disons, qui ont occupé le même poste que lui, c'est-à-dire qui avaient la même fonction de produire chaque semaine une cantate pour la liturgie, puisque la cantate était non pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas des œuvres de concert, donc non pas jouée déconnectée de la liturgie, mais était jouée pendant la liturgie. Et donc, tous les cantors de toutes les villes d'Allemagne devaient produire des cantates. Alors Telemann, qui a été lui-même qui a occupé ce poste, a produit, tenez-vous bien, 1300 cantates, au moins certains chiffres disent 1500 ou 1700.
Ben voilà, cantates d'église en
voilà,
tout cas.
Voilà, tout à fait, 1300 cantates d'église en tout cas, et peut-être bien plus avec les cantates profanes, et un certain Krieger, plus de 2000. Et donc voilà, alors on peut se dire, ben Bach à côté de ça, 300, c'est un petit bras. Mais évidemment, quand on a dit ça, on n'a rien dit, parce que la caractéristique des cantates de Bach, c'est leur ambition musicale. Les cantates de Telemann, par exemple, qui sont, on va le voir dans un instant, souvent de grande qualité, mais sont écrites pour un soliste, un instrument et ce qu'on appelle la basse continue, c'est-à-dire un orgue et un violoncelle. Donc c'est beaucoup plus rapide, elle dure une dizaine de minutes.
Dans la composition.
Voilà. Et c'est beaucoup plus simple. Alors que la majorité des cantates de Bach sont écrites pour un chœur d'abord et puis ensuite des arias qui se succèdent.
Beaucoup plus élaborées, structurées,
beaucoup plus complexes, beaucoup plus profondes et demandant à leur auteur beaucoup plus d'investissement en temps pour creuser, disons, la qualité de sa composition.
Alors, pour vous faire entendre une cantate composée à l'époque de Bach, mais qui n'est pas de Bach, voici un extrait de la TWV 417 de Georg Philipp Telemann. Extrait de la cantate TWV 417 de Telemann, le cinquième aria Brecht ihr müden Augen Lieder, interprété par l'ensemble Il Gardellino. Après avoir écouté ça, qu'est-ce qu'on peut dire de l'art de la cantate de Telemann comparativement à celui de Bach?
Le problème de Telemann, c'est qu'il a tellement écrit. Alors on parlait de 1300, 1500, 1700 cantates, mais on ne sait même pas combien il a écrit de concertos de suite pour orchestre, etc. Que dans toute cette production, il y a toute une part qui est, on va dire, médiocre, une petite part. L'immensité de ses œuvres, la plus grande part, est d'un niveau correct. Et puis, quelques œuvres qui émergent comme ça, c'est un bijou absolu.
C'est une petite merveille, effectivement.
Et l'ensemble de la cantate est magnifique. Mais retenons bien qu'aucune comparaison sur l'investissement que chacun de ses compositeurs mettait dans ses œuvres. Pour Bach, c'était vraiment quelque chose d'essentiel dans sa vie.
On revient donc à Bach et à ses cantates. Alors, vous vouliez nous parler de rhétorique musicale. Qu'est-ce que vous entendez par là en utilisant ce terme? Est-ce que la musique qu'il compose sur des textes religieux bibliques leur donne un autre éclairage, voire une signification supplémentaire? Ce serait ça, la rhétorique musicale?
Voilà, c'est ça. C'est un mot un petit peu pédant peut-être, hein, rhétorique,
savant, en tout cas.
Voilà, savant, rhétorique musicale. On utilise aussi le mot de figuralisme, c'est-à-dire comment le compositeur va illustrer le texte qui lui est soumis. Il faut savoir qu'à l'époque, donc j'ai parlé de la modestie du travail de compositeur de cantate, la modestie demandée même, puisque alors donc en parlant de ça, j'ai parlé aussi du génie de Bach, mais ce génie l'a constamment embarrassé toute sa vie. Il a eu des ennuis avec tous ses employeurs parce que il mettait trop de lui-même dans ses œuvres. Et on a des textes le réprimandant disant « Monsieur Bach, vous troublez le croyant avec vos modulations. Monsieur Bach, on en parlera tout à l'heure, pourquoi avez-vous introduit ce passage dans une cantate ?» nous sommes à l'église, nous ne sommes pas au théâtre, nous ne sommes pas, etc. Et donc, le principal dans une cantate, ça n'était pas la musique et ça n'était pas le compositeur, c'était le texte en réalité. Et donc, ce texte, qui était souvent des textes sacrés, mais entre ces textes sacrés, il y avait souvent un liant, hein, comme une sauce, comme pour une sauce, un liant qui était fait par un librettiste. Et par exemple, Bach a eu lui-même un librettiste pendant toute une période qui s'appelait Picander, enfin, dont le nom d'écrivain était Picander, qui était donc son librettiste. Le texte était plus important. Et il fallait donc que le compositeur illustre ce texte avec sa musique, le mette en valeur, le rende particulièrement sensible aux oreilles des auditeurs et des croyants. Et ça, c'est un art qui est éminemment baroque, c'est-à-dire il n'y a pas que Bach du tout qui devait faire ça. Simplement, voilà, c'est là probablement un des domaines dans lequel Bach a été le plus incroyablement génial. C'est comment illustrer des mots parfois difficiles à illustrer en musique, comment les rendre sensibles. Voilà. Et ça, Bach a excellé absolument dans ce domaine-là, avec des ressources musicales et humaines absolument extraordinaires.
Vous parliez d'illustrer un texte, et bien pour illustrer votre propos sur cet aspect rhétorique des cantates de Bach, vous avez souhaité que l'on écoute un extrait de la BWV 61, encore interprété par l'ensemble de la Jean-Sébastien Bach Foundation.
Ich stehe vor der Tür und klopfe an und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem würde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und ihm mit mir.
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe, un extrait de la cantate BWV 61 interprétée par l'ensemble de la Jean-Sébastien Bach Foundation. Alors, en quoi est-il typique de la rhétorique de Bach dans le genre de la cantate?
Alors là, on ne peut pas être plus au cœur de cette préoccupation, puisqu'évidemment, le texte chanté en allemand, c'est une chose importante à dire que les cantates étaient chantées en allemand, c'est-à-dire qu'il fallait absolument, ça c'était vraiment le vœu de Luther, qui était le promoteur de la réforme en Allemagne, enfin d'une partie de la réforme en Allemagne, et de l'importance de ce moment qu'était la musique pendant la liturgie, il fallait donc que le public qui assistait à la liturgie puisse comprendre au fil. Je rapproche ça, disons, de l'équivalent à la même époque en France, où la liturgie était en latin, mais où également, la musique religieuse était chantée en latin. Et il y a une énorme différence, hein, avec la musique religieuse française de l'époque, Lully, les grands motets de Lully, qui sont des œuvres magnifiques, mais c'est une musique pleine de pompe. On dirait que c'est une musique qui est là pour glorifier le roi Louis XIV. Alors que là, c'est pas du tout ça. On est entre nous, une petite ville d'Allemagne, par un dimanche d'hiver un peu froid, et on vient se réchauffer à cette liturgie et partager ensemble. Voilà. Et donc, cette illustration musicale, donc ce qu'on appelle des pizzicati, des pizzicato de cordes qui frappent tout ensemble leurs cordes pour illustrer ce texte magnifique. Siehe, siehe, vois, vois, je suis devant ta porte et je frappe. Voilà, ich klopfe. Et donc, Bach a décidé d'illustrer de cette manière absolument saisissante le fait de frapper à la porte évidemment de Dieu, suppliant de rentrer dans cette maison. Et donc, je trouve ça d'une beauté absolument inouïe, parce qu'il y a en même temps toute la beauté de la musique, l'illustration sonore très précise, et puis cette phrase, chantée par la basse. Et j'aime beaucoup cette version pour deux choses. D'abord parce que il frappe vraiment, même s'il ne frappe pas très fort, il frappe doucement, mais il frappe vraiment avec leurs pids. Et d'autre part, vous l'avez entendu sans doute, la voix de la basse est un tout petit peu fragile. Ça n'est pas un grand chanteur. Ça n'est pas un grand chanteur d'opéra qui maîtrise parfaitement sa ligne vocale. Mais les cantates n'étaient pas faites pour des grands chanteurs d'opéra. Elles étaient chantées par ceux que Bach avait sous la main, si je puis dire. Et cette relative fragilité, bon, il chante bien quand même ce garçon, mais cette relative fragilité me touche beaucoup, j'avoue.
Nous enchaînons avec un autre aspect des cantates de Bach, ce qu'on appelle les cantates chorales, que vous préférez appeler cantates sur chorale. Alors de quoi il s'agit en fait? Ça veut dire que le texte et la musique y sont organisés intégralement sous forme de chorale.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, alors intégralement ou pas, Bach y est revenu tout au long de sa vie. Hein, il a eu, l'exemple que nous allons avoir est un exemple de sa jeunesse, mais il y est revenu à sa maturité quand il était à Leipzig. On prend une mélodie de chorale et elle parcourt, disons, un certain nombre de mouvements qui composent la cantate, puisque la cantate se compose de différents mouvements. En général, chez Bach, donc un grand chœur d'ouverture, puis ensuite ce qu'on appelle des récitatifs, là où le texte est le plus mis en valeur, on va dire. Alors là, ça réunit juste un chanteur et la basse continue, l'orgue et le violoncelle, et puis ensuite les arias, ou les airs, pour solistes. Et donc, le choral parcourt plus ou moins la totalité de la cantate, voilà, de la mélodie de chorale en général. En général, pas le texte, puisque le texte de chorale est très interchangeable. C'est-à-dire que la mélodie, il faut savoir qu'elle peut servir pour plusieurs textes. Pour mémoire, dans La Passion selon saint Matthieu, Bach a utilisé 8 fois le même choral, mais 8 fois harmonisé différemment, c'est-à-dire la mélodie était accompagnée 8 fois de manière différente et avec 8 textes différents. Et donc le texte, là, n'est pas indispensable. Le compositeur va mettre de la musique sur un texte qui lui est imposé. Voilà.
Pour vous donner un exemple de ces cantates chorales, nous allons écouter plusieurs extraits de la cantate BWV 4, une des premières qu'il a composée. Le premier extrait que nous diffusons intervient en fait à la fin de cette pièce, vers Essen und Leben voll. Wer Essen und Leben voll, chorale finale de la cantate BWV 4 de Jean-Sébastien Bach, interprétée magnifiquement par le Taverner Consort and Players. Pourquoi avez-vous souhaité commencer par le chorale final de cette cantate ?
Voilà, alors j'ai spoilé, je l'avoue, très honnêtement et très humblement. Pourquoi ? Parce que c'est ce dernier mouvement qui permet de comprendre la construction de la cantate. C'est toujours comme ça que ça se passe. Enfin, Bach terminait ses cantates par la version, on va dire, entre guillemets, normale du chorale, c'est-à-dire la mélodie chantée à la voix de soprano et une harmonisation très simple, homorythmique, c'est-à-dire toutes les voix chantent avec le même rythme, quasiment. Et donc, quelque chose de simple. Et ce qui a précédé, on va l'entendre maintenant, reprend donc cette mélodie de chorale, mais on va le voir de manière très différente à chaque fois. Et c'est ce dernier morceau qui donne l'unité à l'œuvre, c'est-à-dire qu'on va entendre ce chorale donc un petit peu comme désossé, et à la fin, on va l'entendre reconstitué. Alors évidemment, nous ne sommes pas dans le cadre de la liturgie. Dans le cadre de la liturgie, c'est beaucoup plus beau comme ça, c'est-à-dire en entendant le chorale à la fin, et à la fin, ce sentiment qu'enfin on l'entend dans sa plénitude. Nous sommes dans une émission explicative, si je puis dire, et donc c'était important pour moi de montrer ce qu'est un chorale avant de parler de ce que c'est qu'une cantate chorale.
Et maintenant, deuxième extrait de la cantate BWV 4, encore interprétée par le Taverner Consort and Players, Jesus Christus, Gottes Sohn. Voilà, c'était le deuxième extrait de la cantate BWV 4, toujours par le Taverner Consort and Players. Jesus Christus Gottes Sohn, un petit commentaire sur ce qu'on vient d'entendre.
Voilà, alors je pense que maintenant, qu'on a entendu le choral pour commencer et qu'on entend ce verset donc de cette cantate, on comprend mieux ce que c'est qu'une cantate sur chorale. Donc, vous avez reconnu la même mélodie que celle qui était chantée dans le choral, mais elle est donc désossée. Elle est chantée par séquence, puisque le chanteur s'interrompt, alors que dans le choral final, hein, vous l'avez entendu, c'était tout d'un bloc, si je puis dire. Mais surtout, on en modifie complètement le contexte musical. Quand ça a commencé, je suppose que beaucoup d'entre vous se sont dit « mais je vois pas le rapport avec ce choral final, cette espèce de brillante variation de violon, d'une virtuosité remarquable, qu'est-ce que ça vient faire là ?» Et puis on entend par-dessus, chanté par le ténor, donc la mélodie de chorale. Donc voilà un des morceaux qui compose cette chorale, mais on n'est pas au bout de nos surprises dans la manière dont Bach va illustrer ce chorale.
Un troisième extrait de la cantate BWV 4, encore avec le Taverner Concert and Players, Christ lag in Todesbanden. Voilà, troisième extrait de la cantate BWV 4 chantée par le Taverner Concert and Players, Christ lag in Todesbanden. Alors, on l'a pris en cours, hein, ce
voilà,
morceau.
Je voulais pas faire entendre que le début du choral, hein, puisqu'on a entendu le choral tout à l'heure en entier. Alors, c'était peut-être difficile pour les auditeurs de se repérer, parce que là, on est en plein milieu de ce chœur, et on prend à la partie où la mélodie est la suivante. Tan, tin, tan, tin, tin, ta, din, tim, qui fait partie donc de la mélodie de ce choral, hein. Alors, c'est un exemple d'écriture pour moi absolument extraordinaire de la part de Bach. Donc on entend les différentes voix du chœur qui rentrent les unes après les autres dans ce qu'on appelle du contrepoint, c'est-à-dire que chacune d'entre elles va chanter une partie qui pourrait presque composer à elle toute seule un morceau, mais elle se superpose. Et puis au bout d'un moment, en valeur plus longue, apparaît à la voix de soprano la mélodie du choral, vous l'avez sans doute repéré, qui rentre après les autres. Mais les premières voix sont rentrées sur une imitation de la mélodie du choral, c'est-à-dire ça ressemble à la mélodie du choral, c'est comme on dirait un apéritif, hein. On est dans un grand restaurant, le chef nous promet un plat de résistance extraordinaire, et avant ce plat de résistance, qui va être donc la mélodie du choral enfin chantée par les sopranos, il nous propose des amuse-bouches qui sont une manière de nous titiller les papilles avant l'entrée du chœur, avant l'arrivée du plat principal. C'est absolument extraordinaire. Et deuxième chose qui m'a guidé pour choisir cet extrait, c'est au milieu, vous avez sans doute entendu, on a une impression de déséquilibre, Bach change complètement la métrique de la pulsation de la musique et on se trouve comme un petit peu en déséquilibre là sur cet Alléluia qui
brinque-ballet.
Démarre. Voilà, brinque-ballet, et après il emballe cette fin sur l'Alléluia de manière absolument extraordinaire. Pensez que c'est un jeune homme qui avait, alors on ne sait pas exactement quel âge, mais 18 ou 19
oui, parce
ans quand il a
écrit
ça. C'est une de ses
premières cantates.
C'est une de ses toutes premières cantates. C'est absolument extraordinaire de penser qu'il avait déjà cette maturité musicale, mais aussi humaine. C'est-à-dire, pour moi, il y a une humanité absolument incroyable dans tout ce qu'il fait, dans cette manière de nous faire attendre, par exemple le choral, c'est pas simplement un souci musical, c'est aussi un souci certainement de l'ordre de la religion et de l'ordre de l'humain. C'est extraordinaire, vraiment. Et on n'est pas au bout de nos surprises.
Et pour aller au bout de nos surprises, on retrouve tout de suite l'ensemble Taverner Concert and Players pour un quatrième extrait de la cantate BWV 4, Den Tod niemand zwingen konnte. Thank you. Quatrième et dernier extrait de la cantate BWV4 dont nous aurons presque fait le tour. Alors c'est vraiment une des plus représentatives de la cantate chorale chez Bach.
Absolument, puisque là aussi apparaît la mélodie de chorale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines de ces cantates qu'on range dans cette catégorie des cantates chorales ou des cantates sur chorale reprennent ce choral seulement dans un ou deux de ses mouvements. Mais là, c'est dans tous les mouvements, qui s'appellent d'ailleurs des versets. On ne sait pas d'ailleurs, c'est très intéressant, parce qu'on ne sait pas à qui sont destinées les parties vocales de cette cantate. C'est-à-dire que ça n'est pas précisé si c'est un chœur ou des solistes. La version que nous avons entendue s'adresse plutôt à des solistes, hein, mais on peut aussi l'imaginer à des chœurs, vu que ça n'est pas marqué. C'est donc des versets simplement. Et ce que je trouve très beau, c'est que Bach fait quelque chose d'incroyablement audacieux et moderne pour amener le choral. Cette fois-ci, il en fait chanter les deux premières notes. Juste ça. Tin, tim. Et la voix d'alto répond. Pim, pam, den, tot. La mort, donc. Et on entend ces deux notes. Mais quel rapport avec le choral? Avant que. Tin, ti, ta, da, dam. Avant qu'il ne développe la mélodie du choral. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. On pressent pour moi quelque chose que Beethoven va cultiver plus tard dans ses compositions. C'est l'aspect de petites cellules extraites d'un thème musical. Et jouer avec ces petites cellules, là aussi en nous appâtant, hein, nous faisant attendre, et puis enfin se développe la phrase. Alors là, pour moi, il y a génie absolu, et encore une fois, c'est un tout jeune homme. Certains musicologues pensent que cette œuvre aurait été composée pour un concours, pour obtenir le poste d'organiste à Mühlhausen, une des toute première place qu'a occupé Bach dans sa vie. Voilà, là, on ne peut que s'incliner devant tant de génie. Vraiment, je vous recommande d'écouter cette cantate dans son déroulement normal et non pas, comme je l'ai fait, avec un peu d'audace, dans le mauvais ordre.
Den Tod niemand zwingen kann. Donc c'était le dernier extrait de cette cantate BWV4. Alors vous vous doutez bien qu'en ayant composé plus de 200 cantates tout au long de sa vie, Bach a utilisé différents styles d'écriture. Nous allons écouter de nouveau un extrait de la cantate BWV61, celle diffusée juste avant les extraits de la BWV4. C'est une version de la Jean-Sébastien Bach Foundation et il s'agit du chœur d'ouverture Nun kommt der Heiden Highland. Nun kommt der Heiden Highland, le chœur d'ouverture de la cantate BWV61, qu'on peut traduire par « Viens maintenant, sauveur des païens », interprété par l'ensemble et le chœur de la Jean-Sébastien Bach Foundation. Premier extrait que vous avez retenu pour évoquer les styles d'écriture de Bach dans le genre de la cantate. Qu'est-ce que celui-ci vient illustrer ?
Voilà, alors, situation d'époque probablement. Le lendemain de la création de cette cantate, Monsieur Bach est convoqué par ses supérieurs dans un bureau. Monsieur Bach. Qu'est-ce que vous nous avez donné à entendre hier dans la liturgie avec votre cantate? Qu'est-ce que c'est que cette musique qui trouble les croyants et qui vient apporter des éléments aussi étranges dans la liturgie? Et ça, ça a été tout au long de sa vie. Ce que nous venons d'entendre là, c'est typique de ce qu'on appelle l'ouverture à la française, c'est-à-dire l'ouverture à la française, sous-entendu l'ouverture d'opéra. C'est exactement le type de musique, à part évidemment un élément important qui est l'apparition du choral, Mais quand on entend l'orchestre qui rentre au début, dans le début de cette cantate 61, c'est exactement, pourrait se croire, exactement à Versailles, dans le petit théâtre de Versailles, en train d'écouter le dernier opéra composé par Monsieur Lully, en présence de Louis XIV. Et donc nous sommes à des années-lumière et à des milliards de kilomètres d'une petite ville de province allemande dans laquelle tout est bien codifié, etc. etc. Mais qu'est-ce qui a pris à Jean-Sébastien Bach d'introduire ce style de musique dans ses cantates? Ce qui ne se faisait mais absolument pas à l'époque, et qui était même vraiment très 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 mal vu. Eh bien, deux choses. D'abord, il a une idée derrière la tête. Il veut illustrer quelque chose. C'est la première cantate d'une nouvelle année liturgique. Et donc, on ouvre l'année liturgique. Qu'est-ce qu'il met? Une ouverture. On parlait de rhétorique tout à l'heure. Là, c'est un exemple de rhétorique incroyablement subtil de sa part. On ouvre une nouvelle année, je mets une ouverture à la française, une ouverture d'opéra à la française. Mais on pourrait se dire, mais lui qui n'a quasiment jamais voyagé, où est-ce qu'il a pu découvrir l'ouverture d'opéra baroque français? Eh bien, simplement, Bach n'a pas voyagé, mais il a su se nourrir de toutes les rencontres de musiciens qu'il a pu avoir dans sa vie. Et il se trouve que, par exemple, dans une période de sa vie, il était employé à Köthen, où on ne pratiquait pas la musique d'église, puisque c'était une principauté calviniste, et donc la musique y était interdite à l'église, donc il n'a pas composé de cantate. Par contre, l'orchestre de Köthen comportait beaucoup de musiciens français. C'était un remarquable orchestre composé de beaucoup de musiciens français. Et donc là, il s'est nourri de cette musique, et plutôt que de la rejeter avec mépris en disant c'est de la musique frivole, tout juste bon pour des cours de rois despotiques, il l'a intégré à son langage musical et il l'a recyclé dans ses cantates. Voilà. Et ce que je trouve extraordinaire pour terminer, c'est on entend donc cette musique qui n'a rien à voir avec le cadre de l'église, hein, l'opéra, donc comme je l'ai dit, mais dessus, il arrive à faire loger cette magnifique phrase de chorale aux quatre voix séparées et enfin, juste avant la partie rapide, qui est en toute ouverture d'opéra à la française, les quatre voix qui se réunissent pour entonner cette dernière phrase de chorale. C'est juste sublime, quoi, j'ai pas d'autres mots.
Autre extrait maintenant avec la cantate BWV 31 cette fois-ci, et c'est une version de l'ensemble Pygmalion dirigée par son fondateur Raphaël Pichon. Extrait de la cantate BWV 31 interprétée par l'ensemble Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle a de particulier en termes d'écriture musicale?
Voilà, alors vous l'avez compris, donc les cantates sont pour Jean-Sébastien Bach un peu un fourre-tout de son écriture musicale et il y met beaucoup de lui-même et là on reconnaît son écriture, on va dire, habituelle, j'ai envie de dire. Je voulais quand même en donner un exemple. Alors on entend au début, après la fin de cette phrase lente magnifique, des entrées fuguées. Tout d'abord l'entrée au soprano, puis aux altos. On attend un petit peu et rentrent les pupitres de ténor et de basse. Et puis lorsque les quatre sont rentrés donc sur la même phrase, hein, c'est le propre de la fugue, disons, sur la même phrase musicale, l'orchestre qui rentre avec les trompettes, et là on a l'impression d'entendre un concerto brandebourgeois. On est vraiment dans l'écriture de Bach, dans la magnificence de l'écriture de Bach, qui montre bien à quel point l'envergure de ses œuvres dépasse celle de ses contemporains.
Suite de notre petite série d'extraits pour illustrer les styles d'écriture de Bach, nous poursuivons avec la cantate BWV 173 dans une interprétation de l'Amsterdamer Baroque Orchestra dirigée par Todd Koopman.
Seiner Armen hilft uns Armen.
la cantate BWV 173, un extrait interprété par l'Amsterdamer Baroque Orchestra sous la direction de Todd Koopman. Quel autre aspect de l'écriture de Bach est mis en évidence cette fois-ci?
Alors là, c'est très clair, je pense que tout le monde s'en est aperçu. C'est au cœur d'une cantate religieuse, donc imaginez-vous ça, hein, on entend ça à l'église, une petite danse de cour. En l'occurrence, on aurait pu avoir un doute en se disant non, Bach a composé cette musique, bon, elle est dansante, elle est légère, etc. Mais là, on sait que c'est une danse parce que Bach l'a piqué dans une autre de ses œuvres, une cantate profane dans laquelle il est bien marqué tempo di minuetto, c'est-à-dire le tempo d'un menuet. Une danse baroque, peut-être la danse baroque la plus en vogue à l'époque. Et donc, on dansait le menuet et là, on est invité à danser le menuet à l'église. Et là aussi, je peux vous dire que Bach a eu beaucoup d'ennuis avec ses supérieurs qui ne supportaient pas l'introduction de musique aussi décorative. Mais qu'est-ce qu'il voulait illustrer quand il mettait une danse? Évidemment, la joie, le bonheur, la communion au sens religieux, mais non religieux en l'occurrence aussi, le partage, disons tout simplement, et c'est parfaitement réussi.
Nous allons maintenant écouter deux fois le même extrait de la cantate BWV 82, le premier aria et Schabeug et Noug, mais interprété par deux chanteurs et deux ensembles différents. Voici le premier, une version chantée par le contre-ténor français Damien Guillon, accompagné par l'ensemble Le Banquet Céleste. Le contre-ténor Damien Guillon accompagné par l'ensemble Le Banquet Céleste, qu'il a fondé d'ailleurs, pour cette première version des Schabeug et Noug, Je suis comblé, le premier aria de la cantate BWV 82. Voici maintenant une seconde version de ce même aria, interprétée cette fois-ci par une chanteuse accompagnée par l'ensemble Collegium 1704. Thank you. Seconde version de l'aria d'ouverture de la cantate BWV 82 interprétée par une soprano, cette fois-ci accompagnée par l'ensemble Collegium 1704. Avant de revenir sur ces deux interprétations du même aria, un mot sur Damien Guillon, un chanteur que vous connaissez bien et que vous appréciez puisque vous l'avez invité à Passe ton bac d'abord, Michel.
Voilà, tout à fait. Il était venu chanter il y a quelques années avec nous le magnifique Stabat Mater de Pergolèse. Damien est un garçon absolument charmant, aussi talentueux que simple et modeste et humble. Et donc, ça fait plaisir de rencontrer des artistes comme ça, qui sont au service vraiment de la musique et non pas d'un ego surdimensionné. C'est un garçon absolument charmant et un remarquable musicien.
Quelle voix magnifique, on a pu s'en rendre compte, et quelle œuvre magnifique.
Voilà, alors là, on est, ça fait partie probablement cette cantate Isha Begenouk, des plus célèbres de Bach, hein, de celles qui sont rarement jouées en concert. On peut d'autant plus la jouer en concert, d'ailleurs, ce qui va nous arriver très bientôt avec l'ensemble, parce qu'elle n'a pas de chorale finale. Alors, elle est uniquement dédiée à un soliste, qui peut être donc, vous l'avez entendu, soit un alto, soit une soprano, soit même une basse d'ailleurs. On entend aussi une version pour chanteur basse, mais même quand c'est le cas d'une cantate dédiée à un chanteur soliste unique, Bach met souvent un choral à la fin, et là il n'y en a pas. Et donc c'est pratique en concert, comme ça on n'a pas besoin de réunir un chœur pour chanter le choral.
Alors il faut savoir que Bach n'a pas composé que des cantates religieuses sacrées, il a aussi écrit quelques cantates profanes, et vous avez voulu que nous terminions par l'une d'entre elles. Voici un extrait de la cantate BWV 212, c'est une des dernières, dite aussi cantate des paysans, et nous retrouvons l'ensemble de la Jean-Sébastien Bach Foundation pour l'écouter. Mehr Hahn und Neue Oberkeit, extrait de la cantate BWV 212, la cantate des paysans, qui, comme son nom l'indique, est bien sûr une cantate profane. Bach en a donc composé aussi. Est-ce que c'est une part non négligeable de son œuvre ou c'est vraiment marginal?
Non, alors c'est une part non négligeable, puisqu'il y a, semblerait-il, une cinquantaine, soixantaine de cantates profanes. Et on n'en a retrouvé qu'un tout petit nombre. Hein, on en a perdu la plus grande part, en réalité, bien plus que dans les cantates profanes. Voilà, alors, si, c'était bien du Bach que vous avez entendu, c'est absolument incroyable. Ah,
c'est une autre ambiance.
Une autre ambiance, absolument. Bon, bien entendu, il n'y a plus le contexte spirituel, mais c'est surtout même au niveau de la composition. Ce son, donc, cette cantate est composée uniquement quasiment d'air populaire, en vogue à l'époque, et il faut savoir que Bach adorait ça. Il faut savoir aussi que le texte est pour le moins léger, puisqu'on parle du fait que la femme se dandine sous sa blouse, ce qui donne des idées à son compagnon, qui lui demande un baiser, et elle lui répond « Oh, pas question que je te donne un baiser, parce que tu en veux toujours plus. » Voilà. Donc vous voyez qu'on n'est plus du tout dans le contexte de Isha Begenouk, avant, mais ça fait partie intégrante de la personnalité et de la vie de Jean-Sébastien Bach. Moi, ce que j'imagine, c'est cette pochade, véritablement, jouée en famille, tout le monde éclatant de rire, en enchaînant les différents airs populaires qui composent cette cantate, avec probablement force fausse note pour agrémenter le tout.
Sachant que Bach a eu 20 enfants, on peut penser qu'il n'était pas tout à fait indifférent, comment dirais-je, à la frivolité.
Mais absolument, on sait aussi par ses commandes de tonneaux de bière, qu'il aimait beaucoup la bière, et donc je pense que c'était un bon vivant, contrairement à l'image, l'image qu'on en a souvent, et je pense que là, c'était indispensable, en parlant des cantates, de montrer aussi cet aspect de Jean-Sébastien Bach.
Voilà, c'est la fin de cette émission, la troisième de la série que nous avions dédiée à Jean-Sébastien Bach et à son œuvre. Aujourd'hui, c'était donc les cantates qui étaient à l'honneur, un des genres où Bach fut le plus prolifique, où son génie trouvera le mieux à s'exprimer, avec plus de 200 pièces répertoriées au catalogue, dont de très nombreux chefs-d'œuvre. Je remercie de nouveau Michel Brun pour s'être prêté au jeu et pour avoir relevé le défi consistant à explorer en moins d'une heure cette partie de la production du grand compositeur allemand. Nous retrouverons Michel la semaine prochaine pour un autre volet du cycle que nous avions consacré à Jean-Sébastien Bach, celui dédié à la forme concerto cette fois-ci, qu'il s'agisse de concerto pour orchestre, pour violon ou pour clavier, là aussi il y avait de quoi faire. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de nous être toujours fidèles. Bon week-end et excellente semaine à tous.